En cette fin de soirée, au micro du miroir du temps, Albert Swinden s'entretient avec Louis-Ferdinand Céline.
En juillet 1957, sur les antennes de la radio suisse, Louis-Ferdinand Céline dresse son propre bilan de ses actes durant l'occupation allemande.
Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et comme écrivain, je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout.
Donc, 12 ans après la guerre, Louis-Ferdinand Céline affirmait avoir agi avec la seule volonté de sauver la paix. Bien. Alors à nouveau, je vous propose de sonder les archives et d'ausculter les faits, histoire de vous faire une idée un peu plus précise sur la question.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Le 22 juin 1940, après la débâcle de l'armée française, Philippe Pétain choisit de signer un armistice avec le Troisième Reich. Dans la foulée, le vieux maréchal emprunte la voie de la collaboration.
Cette collaboration doit être sincère. Elle doit comporter un effort patient et confiant.
Avec ce nouvel épisode, nous entrons dans le cœur du volcan célinien, avec ses éruptions haineuses, ses fumées toxiques et sa lave en fusion. Depuis 80 ans, les admirateurs de Céline tentent de minimiser son action politique durant ces années noires. Et on entend même parfois que ses pamphlets antisémites ne sont que le fruit d'un délire littéraire et fiévreux sous la plume d'un écrivain tourmenté.
Ils en ont pas honte, eux, d'être juifs. C'est eux les pires racistes. Eux, dont tout le triomphe est raciste.
Autrement dit, les mots employés par Céline n'ont jamais tué personne, ni même poussé des juifs dans des wagons à bestiaux. C'est vrai. Mais alors découvrons quel rôle a réellement joué l'auteur du Voyage au bout de la nuit dans cette France occupée par les nazis.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, Le Voyage sans retour. Septième épisode, Le collaborationniste.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit commence à Sartrouville, en Île-de-France, le 13 juin 1940, autrement dit la veille de l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Le docteur Destouches, non mobilisable du fait de sa blessure de 1914, se porte volontaire pour être ambulancier. Avec Lucette, ils sont chargés par le maire de Sartrouville d'évacuer une vieille femme et deux nouveau-nés vers la ville de Gien, au sud de Paris. Et sur la route de l'Exode, Louis-Ferdinand Céline devient le spectateur d'une débâcle militaire.
Il décrit la débâcle de l'armée française et les chars d'assaut qui filent vers le sud, etc.
Frédéric Vitoux, académicien et biographe de Céline.
Et voilà ce qu'il écrit. Orageante ferraille à panique. C'est formidable. Orageante ferraille, on est à côté shakespearien, les airs qui roulent, les grosses machines, ces orageantes ferrailles. Et puis, à panique. Paf, tout tombe dans la dérision. Ces orageantes ferrailles à panique. Et il ajoute encore cette phrase, parce que charge aux pantoufles. Orageante ferraille à panique, charge aux pantoufles. Voilà ce qu'il voit et ce qu'il résume de la débâcle de l'armée française en juin 40. Donc ça dit tout sur le génie stylistique de Céline, qui en cinq mots, paf, on a compris, et c'est savoureux, c'est drôle, c'est accessible, bien entendu, la question n'est pas là, mais c'est génial. Et ça prouve le regard affligé de Céline sur la décomposition des valeurs de l'armée française et de la société française, probablement à cette époque-là.
Nous n'avons d'autre chemin à suivre que celui de la collaboration loyale avec l'Allemagne et l'Italie.
Après cette étrange défaite, survient aussitôt l'effondrement politique.
Mais nous avons la chance, le bonheur dans le malheur que nous vivons, d'avoir en France un soldat victorieux, un maréchal de France.
Dans la panique, le 10 juillet 1940, les parlementaires votent les pleins pouvoirs à Philippe Pétain.
Je les ai roulés dans la farine. 569 pour, 80 contre, 17 abstentions. Pas un seul amendement, mais Mériot s'est donné le luxe de faire votre éloge.
La République est liquidée.
Buvons à la mort de la République.
Les antisémites se réjouissent, car pour eux, la République, c'est l'ennemi. Et depuis un bon moment déjà.
Lorsque Drumont commence à faire des émules à la fin du 19e siècle, eh bien, il a une cible, c'est la République, qui est aux mains des Juifs, selon lui, et qui vise à déchristianiser la France et à sacrifier l'Ancien Monde sur l'autel d'une modernité considérée comme diabolique.
Grégoire Kaufmann est historien.
Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'ADN de l'antisémitisme français, puisque dans les autres pays européens à l'époque, il n'y a pas beaucoup de républiques, et qu'en France, il y a ce phénomène de sécularisation, de laïcisation, et que les adversaires de la modernité et de la démocratie vont imputer aux Juifs ce phénomène de basculement vers la modernité. C'est aussi l'époque de la première mondialisation, où le changement va très très vite, et un certain nombre de Français cherchent des explications pour comprendre ce changement, et l'antisémitisme sera l'une de ces explications. Selon Louis-Ferdinand Céline, la République est juive, mais la Révolution, déjà la Révolution française, est l'œuvre des Juifs. Et là, on voit évidemment le travail de copier-coller avec les antisémites du genre Édouard Drumont, qui avait déjà théorisé cette idée que la Révolution française était juive, ou plutôt judéo-maçonnique. Hein. C'est quelque chose que Drumont répand dans le discours social dans les années 1880-1890.
Le seul auquel la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif. Tout revient aux Juifs.
Et ce mythe de la Révolution juive et conséquemment de la République juive continue à faire florès au XXe siècle. Mais il y a aussi le mythe du judéo-bolchevisme. On impute la Révolution bolchevique aux Juifs et à l'or juif. En gros, il y aura d'un côté le Juif capitaliste qui financerait les révolutionnaires pour détruire l'Ancien Monde. Et ça fait partie des mythologies auxquelles Céline s'abreuve abondamment.
Anna Arendt, Les origines du totalitarisme, 1963. La thèse de Louis-Ferdinand Céline était simple, ingénieuse, et elle avait juste ce qu'il fallait d'imagination idéologique pour compléter l'antisémitisme plus rationaliste des Français. Selon Céline, les Juifs avaient empêché l'unité politique de l'Europe, provoqué toutes les guerres européennes depuis 1843, et tramer la ruine de la France et de l'Allemagne en suscitant leur hostilité mutuelle.
Ce mythe de la guerre juive, évidemment, repose sur l'idée que les Juifs recherchent la guerre pour des motifs financiers, mais aussi par haine des non-Juifs. C'est-à-dire, c'est une sorte de crime rituel à l'échelle mondiale, dans l'imaginaire antisémite. Les Juifs veulent la destruction des non-Juifs, donc ils déclenchent des guerres à cette fin.
Cette prétendue machination des Juifs, Céline l'avait dénoncé dès 1938 dans l'école des cadavres. Et au moment où la France prend le chemin de la collaboration, ses idées triomphent. Et il ne va pas manquer de s'en vanter.
Louis-Ferdinand Céline, dans la préface de la réédition de l'école des cadavres, 1942. L'école des cadavres était le seul texte à l'époque, journal ou livre, à la fois et en même temps, antisémite, raciste, collaborateur, avant l'heure, anti-anglais, anti-maçon et présageant la catastrophe absolue en cas de conflit.
À À partir de l'automne 1940, dans les cercles de la collaboration avec l'Allemagne nazie, les historiens distinguent deux types de collabos. D'abord, on trouve les collaborateurs, c'est-à-dire des Français favorables à la politique de collaboration choisie par Philippe Pétain, ainsi qu'à la Révolution nationale.
Je lève mon verre à toutes les mères et à toutes les femmes qui un jour porteront fièrement dans leurs flancs la France de demain. Bonne fête, mesdames. Merci.
Eux, ce sont donc les collaborateurs. Et puis, on croise aussi les collaborationnistes, c'est-à-dire des Français qui souhaitent carrément une alliance avec le Troisième Reich. Les collaborationnistes aspirent à une Europe dirigée par Hitler.
Si on s'était tous alliés avec lui, en 1936, avec Franco et Mussolini à nos côtés, l'Angleterre n'aurait pas fait long feu et l'Europe était à nous. Enfin bon.
Céline est un collaborationniste. Il a rejoint le clan des pro-nazis.
Les grandes figures seront Jacques Doriot, auquel Céline lui-même fera presque allégeance.
Pascal Horry, historien et académicien.
Ce qui est rare chez lui, parce que qu'il sélectionne, lui, qui renvoie tout le monde dos à dos, un homme politique en disant ben voilà, c'est vous, et qu'il l'écrive et que ça soit publié dans l'Émancipation nationale, donc dans le périodique du PPF, Parti populaire français de Doriot, c'est assez exceptionnel. Et Céline va circuler entre tout ça d'une manière très célinienne, non pas en acceptant de tenir par exemple une chronique, mais en envoyant des lettres ouvertes. C'est tellement célinien ça.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Jean Lestandy pour le journal Au Pilori, 30 octobre 1941. Arracher un chien à son maître est œuvre douloureuse sous toutes les latitudes. Je ne vois pas comment vous arracheriez le français 1941 à son juif. Le français, et surtout la française, n'imagine même pas leur existence sans juif. La symbiose est totale. Ils n'éprouvent d'affection, de passion, de vice que par le juif. Toute leur affectivité est accaparée, monopolisée par le juif. La grimace juive, l'imposture juive. Il ne s'agit plus de sauver le français. L'actuel français est définitivement perdu, pourri, cadavérique. Il s'agit de recréer du français.
Des lettres ouvertes. En acceptant des entretiens, on dirait aujourd'hui des interviews, qui sont publiées. Donc, on peut tout de suite répondre, ce qui n'est plus d'ailleurs tellement dit aujourd'hui, mais qui était dit il y a peut-être un demi-siècle. Ah non, mais Céline n'a rien fait. Effectivement, il était antisémite, mais enfin, il s'est mis à l'écart. Mais pas du tout. Il est omniprésent, mais façon Céline.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Marius Richard, probablement en 1942. Je n'ai jamais touché un sou d'un journal quelconque. Ceci est le prix de mon absolue indépendance. Il m'arrive d'envoyer des lettres, toutes gratuites, des cadeaux. S'ils impriment textuellement, c'est tout ce que je demande. Ce sont pour moi des colonnes Maurice. Je n'ai pas à me demander ce qui est imprimé à côté.
Quand on offre une lettre ou un entretien, on n'est pas rémunéré. Donc on n'est pas payé par un journal collaborationniste, on a une tribune écrite de sa main, mais en effet, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de rémunération.
En effet, adresser des lettres ouvertes, ce n'est pas rémunéré, c'est très important. La rémunération de Céline, c'est celle du médecin.
Ayez bien en tête que Céline a écrit des dizaines de lettres à des journaux collaborationnistes, mais sans aucune contrepartie financière. Ce qui lui a permis d'affirmer après-guerre qu'il n'avait jamais travaillé pour eux. Par ailleurs, sous l'occupation, Louis Destouches poursuit son activité de médecin. Le docteur Destouches exerce au dispensaire municipal de Beson, au nord-ouest de Paris, près d'Argenteuil. C'est ce qui lui assure son revenu.
Vous attendez le docteur ?
Oui, il est à côté. Mon garçon passe à la radio.
Mais comment a-t-il décroché ce poste ?
Faites entrer le suivant.
Céline attend depuis quelques semaines qu'on lui donne ce poste de médecin du dispensaire de Besançon-Seine-et-Oise. Et puis ça ne vient toujours pas, donc il monte un peu plus haut, il va s'adresser à un responsable du régime de Vichy. C'est peut-être un cas extrême quand même dans sa biographie. Ce n'était pas très connu jusqu'à ces derniers temps.
Messieurs, je vous rappelle que le courrier dépend de mes attributions.
Le courrier peut-être, mais les dénonciations... Tenez, dès celle-là, elle est très bonne.
Louis-Ferdinand Céline au docteur Gadvel, directeur de la santé à Paris, le 5 novembre 1940. Mon cher directeur, vous le savez sans doute, j'avais jeté mon humble dévolu sur le poste de médecin du dispensaire de Bézons.
J'ai jeté mon humble dévolu. Alors ça, c'est le ton. Alors, où le situer, d'ailleurs ? C'est en même temps, c'est excessif, c'est un peu torve. Bon, ça, c'est du Céline. J'ai jeté mon humble dévolu sur le poste de médecin du dispensaire de Besançon-Seine-et-Oise.
Seine-et-Oise, actuellement occupé par un nègre haïtien et sa femme. Ce nègre étranger doit normalement être renvoyé à Haïti, d'après les lois nouvelles en vigueur.
Il faut préciser, parce que ce médecin s'appelle le docteur Joseph Hogarth. Vérification faite, il est en effet haïtien, mais pas juif. Donc, il coche là aussi une case. Là, c'est effectivement le racisme anti-noir. C'est quand même assez impressionnant parce que là, c'est le Céline médecin, le Céline qui a des intérêts financiers à défendre, qui va... Alors, ce n'est pas une dénonciation sans strict, parce que évidemment ceux auxquels il s'adresse savent que le docteur Hogarth est haïtien, mais enfin, hein, quand même, au regard de la postérité, c'est accablant.
Accablant. D'autant qu'en effet, le docteur Joseph Hogarth a été limogé pour laisser sa place à Louis-Ferdinand Céline, au dispensaire de Besançon. Certes, les lois contre les étrangers, promulguées par le régime de Vichy, interdisaient au docteur Hogarth d'exercer la médecine. Mais disons que Céline s'est vite manifestée pour faire évincer celui qui occupait la place.
Décidément, notre peuple est habité par le génie littéraire. Se dénoncer les uns les autres. Quel plaisir.
En septembre 1976, l'avocat François Gibault, un des deux ayants droit de Louis-Ferdinand Céline, évoquait sur Antenne 2 les activités de son mentor entre 1940 et 1944.
Pendant la guerre, Céline a publié « Les beaux draps », qui est un roman qui n'est absolument pas pro-allemand, c'est un livre qui n'est absolument pas pro-allemand et qui n'est absolument pas antisémite. C'est un livre qui, au contraire, raconte les beaux draps, c'est-à-dire les beaux draps dans lesquels se trouvent les Français, dans lesquels se trouve la France, après la guerre de 39-40.
Louis-Ferdinand Céline, dans Les beaux draps, 1941. Nous nous débarrasserons des Juifs, ou bien nous crèverons des Juifs. Par guerre, hybridation burlesque, négrification mortelle. Le problème racial domine, efface, oblitère tous les autres.
En effet, en février 1941, Louis-Ferdinand Céline réapparaît en librairie et il publie « Les beaux draps », un nouveau pamphlet.
Les beaux draps n'est pas forcément des trois ou quatre, si on y ajoute, mea culpa, le plus radical, le plus violent. Il tient compte quand même pour un Céline, de ce choc qu'est la défaite française et l'occupation.
Pascal Horry, historien et académicien.
Pour l'essentiel, il s'agit surtout de se présenter lui comme victime, comme prophète. Il a eu raison avant tous les autres, c'est-à-dire pour ça qu'on ne l'aime pas, etc. Et de manifester d'emblée, et on a des traces privées de ça dès l'automne 40, et là on parle de 41, sa méfiance à l'égard de Vichy. Les collaborationnistes seront de plus en plus critiques à l'égard de Vichy. Ils respecteront le maréchal par principe, en attaquant à peu près tous ses collaborateurs, mais pas le maréchal. Lui, Céline, va plus loin. C'est pas tellement le maréchal, c'est le fait que le régime de Vichy, ce n'est pas la bonne solution. Alors, quelle serait la bonne solution ? Quelques temps après, effectivement, on a l'impression que ça sera une dictature fasciste avec Doriot. Mais c'est vraiment un texte qui ne peut pas plaire à Vichy. Ça, c'est fondamental. Donc, d'une certaine façon, Céline est là où on l'attend toujours, c'est-à-dire dans l'endroit qui est le plus problématique pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris pour les vainqueurs du jour, puisque sortir ça en 41, c'est être du côté des vainqueurs. Mais il y a les vainqueurs allemands, les vainqueurs français. Paradoxalement, les vainqueurs français, donc vainqueurs entre guillemets, hein, paradoxaux, qui prennent le pouvoir, ne trouvent pas grâce à ses yeux.
Les Beaudrats froissent les caciques du régime de Vichy. On va y revenir. Mais d'abord, pourquoi cette nouvelle publication en février 1941 est-elle, et je pèse mes mots, si grave ?
Parce que il y a un contexte. Et il y a un contexte qui fait que ce que vous dites ou ce que vous pensez pendant l'occupation, c'est pas la même chose que de le dire et de le penser avant l'occupation. Et d'où l'importance des rééditions.
L'historienne Anne Simonin.
Et tous les pamphlets de Céline, que ce soit Bagatelle pour un massacre, qui est réédité 3 fois, L'école des cadavres, qui est réédité 2 fois, Les Beaudrats, qu'il va publier en 1941, ce sont des textes qui changent de statut à partir du moment où vous les rééditez. Et où vous les rééditez, et où vous rompez, si vous voulez, avec le fait qu'il s'agit, dans les années 30, à la fin des années 30, d'un antisémitisme de plume, qui là devient un antisémitisme d'action, parce que vous acceptez et vous valorisez ce qu'est la propagande nazie et que vous justifiez ipso facto les lois d'exclusion dont sont victimes les juifs sous l'occupation, à cause donc de la législation antisémite des 2 statuts des juifs édictés par le régime de Vichy.
Pour être très clair, hein, Anne Simonin, en effet, quand on publie Bagatelle pour un massacre en 1937, on ne déporte pas, on n'extermine pas les Juifs d'Europe. En 1941, 42 et 43, c'est très différent. Donc ces livres peuvent en effet participer à un climat, une atmosphère qui fait qu'on justifie, quand même on agit quelque part dans cette extermination des Juifs d'Europe.
Absolument. Et ça devient une littérature d'action et on le voit avec les Beaudrats qui est plutôt un texte qui revient sur les conditions de la défaite et dans lesquelles Céline va s'intéresser à l'avenir et notamment en proposant un certain nombre de réformes, et c'est là où il formule l'idée de la semaine de 35 heures, des nationalisations, du salaire minimal pour tous les Français. Enfin, ça ne veut pas dire pour autant qu'il abandonne son antisémitisme. Il naturalise d'une certaine façon son antisémitisme, et il le naturalise d'une façon assez terrible de mon point de vue, par une note en bas de page, alors qui est quelque chose de tout à fait spécifique chez Céline, parce qu'il utilise très peu ou pas la note en bas de page. Il l'utilise une fois dans l'école des cadavres en 1939, et je vous donne le texte de la note. « Je ne saurais trop recommander la lecture du livre admirable de Dasté, Marie-Antoinette et le complot maçonnique. » Et puis dans les Beaudrats, en 1941, la note en bas de page devient « J'entends par juif. »
« J'entends par juif. »
« Tout homme qui compte parmi ses grands-parents. »
« Un juif. »
« Un juif. »
« Un seul. »
« Un seul. » Pourquoi c'est important ? Parce que les Beaudrats sont publiés en février 1941, au moment où il y a effectivement beaucoup d'agitation concernant la question juive, puisqu'on va créer quelques mois plus tard le commissariat général aux questions juives, et qu'il va y avoir un second statut des juifs en juin 1941, second statut des juifs qui est promu par Xavier Vallat, donc le commissaire aux questions juives, et dont l'article premier dit... Et regardez comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. C'est-à-dire que pour Xavier Vallat, qui est un antisémite convaincu, il faut au moins 3 grands-parents. Eh bien, Céline lui suggère d'être un tout petit peu plus radical et de considérer, je répète, j'entends par juif, tout homme qui compte parmi ses grands-parents, un juif, un seul. Et donc là, si Vallat avait suivi Céline, ce qui était possible, le texte Vallat en dispose en février 41 et aurait pu reprendre cette définition du juif dans le second statut des juifs, ça signifiait encore une extension considérable de la définition du juif et qui était directement promue par Céline.
Précisons, Anne Simonin, que pour l'historienne que vous êtes, une note de bas de page, ce n'est pas rien. Je dis ça parce que soudain, ce n'est plus forcément un écrivain qui écrit un délire antisémite. Avec cette petite note en bas de page, il devient un acteur politique.
Absolument, et c'est Pierre Birnbaum qui parle de décisionnisme et qui dit, je cite, « un véritable appel à une radicalisation de la lutte anti-juive en incluant dorénavant, dans cette chasse aux juifs, une population non encore concernée par la jurisprudence en vigueur ». C'est-à-dire que là, vous quittez le terrain de la littérature pour entrer sur celui du droit et donc sur l'agentivité, en quelque sorte, de la persécution des juifs. Et ça, il le fait tout à fait consciemment, Céline.
Là-dessus, Céline, est-ce un grand écrivain ? Oui ! Approuvez-vous ce qu'il écrit sur les juifs ? Je ne lis pas les torches-culs qu'il fréquente. Excusez-moi, monsieur, je suis peut-être un peu sous, mais ça ne m'empêchera pas, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense.
Récapitulons. Avec les beaux draps, Céline sort de son statut d'écrivain pour entrer dans la sphère politique. Il propose sa définition juridique de ce qu'est un juif dans une France où le régime vient de créer un commissariat général aux questions juives chargé de rédiger un second statut des juifs.
Beaucoup, je dis beaucoup, voire la plupart d'entre eux, s'estimeront dans leur bon droit. Ils protesteront, menaceront, prétendront même être plus français que vous. Il faut que vous compreniez qu'il s'agit d'une mission qui a un caractère de service public. Soyez inflexibles.
Alors, redisons-le. Les beaux draps, ce n'est donc pas le délire littéraire d'un écrivain surdoué.
Dans ce texte des beaux draps, qui n'est pas le texte le plus emblématique des pamphlets antisémites de Céline, quand on parle des pamphlets, la première chose qui sort, en règle générale, c'est « Bagatelle pour un massacre ». Alors qu'il me semble que le texte le plus dévastateur d'un point de vue antisémite, ce sont les beaux draps. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être, ce qui fera condamner Céline à la libération. Donc là, il y a un problème d'anachronisme. Il faut bien voir que ce texte représente effectivement une véritable rupture dans la production antisémite de Céline. Et donc, il y a une radicalisation de Céline. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où est-ce qu'il a eu comme fantasme de pouvoir être nommé commissaire aux questions juives ? Il le mentionne dans une de ses défenses en disant « j'aurais pu si j'avais voulu ». On sait que son nom a circulé dans les milieux allemands. Ça n'est pas lui qui a été nommé, c'est Xavier Vallat, avec qui il ne s'entendait pas du tout par ailleurs. Mais si vous voulez, là, il y a un changement de position qui fait que ça n'est plus de la littérature à cause du contexte et à cause de l'incursion que fait Céline sur le terrain du droit. Les beaux draps, c'est un antisémitisme d'action.
Il faut rappeler, pour resituer quand même Céline dans ce champ, que Céline avait été dans les deux listes qu'on voit dans les archives allemandes. Il y a deux listes qui émanent toutes les deux de l'ambassade allemande. Pour qui devra diriger le commissariat général question juive en 1941 ?
Laurent Joly, historien.
Parce que c'est l'ambassade allemande qui a proposé au gouvernement de Vichy de créer le commissariat général question juive. Et donc, ils avaient des noms en tête.
Entrez.
Et Céline est le seul pur intellectuel. Les autres n'ont avancé. Il y a Montandon, il y a Darquet de Pellepoix, il y a Marcel Bucard, il y a Jacques Doriot. Ce sont des acteurs politiques. Donc on voit que Céline, d'ailleurs, se retrouve sur les deux listes. C'est l'un des rares noms qui est sur les deux listes. On voit que le nom de Céline était vraiment mis en avant pour diriger un organisme public d'État. Donc on voit bien que Céline est vraiment, en 1941, très impliquée, très investie dans les milieux antisémites parisiens. C'est d'ailleurs peut-être le seul moment dans sa vie où il a eu une forme d'optimisme politique, où il a cru en la politique. Parce que il est convaincu que peut-être que là, il y a vraiment un moment, 41-42, il y a des éléments qui convergent, où on sent qu'il a compris qu'il se passait quelque chose. Et donc, il se dit, ça y est, on va pouvoir résoudre des problèmes juifs en France, et peut-être que la France n'est pas si foutue que je le crois.
Ce qu'on veut seulement, c'est qu'ils foutent le camp. Tous et vite. Allez, on embarque.
Par ailleurs, en cette fin d'année 1941, Céline apporte son concours et son soutien à un étrange personnage. L'individu s'appelle Georges Alexis Montandon. D'abord, d'où se connaissent-ils ?
Alors Montandon, je crois qu'il le connaît depuis la fin des années 30, parce que Montandon gravitait dans les mêmes milieux, était aussi assez proche de Darquet de Pellepoix, et il a des points communs avec Céline. Bon, d'abord, c'est un médecin, et c'est un raciologue. Et donc ça, ça plaît beaucoup à Céline, qui va beaucoup le lire d'ailleurs, qui le cite dans le pamphlet de 38, dont il va faire la promotion pendant l'occupation, parce qu'il se dit, mais voilà le type qu'il faut. Voilà le type qu'il faut. Lui, il a compris que le problème juif, c'est biologique, c'est racial, et il va intervenir pour que Montandon ait un poste dans les instances officielles antisémites. Alors il va notamment écrire à Fernand de Brinon, qui est le délégué du gouvernement de Vichy à Paris.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Fernand de Brinon, fin 1941, début 1942. Mon cher ambassadeur, encore un cas navrant à porter à votre haute connaissance. Il s'agit de Montandon, un admirable savant que l'on a traité monstrueusement depuis 2 ans. Il est à bout de ressources. Ne pourrait-on lui trouver d'urgence un petit emploi à l'Institut des questions juives? Il serait le seul, en fait, à connaître la question scientifique dans cet institut.
Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a eu un effet direct. Toujours est-il que Montandon a été nommé, et c'est en cela qu'il est important, expert ethno-racial auprès du commissariat général aux questions juives et de la préfecture de police de Paris. Donc c'est lui qui examinera tous les cas douteux. C'est ce qu'on appelait les cas douteux, les gens qui ont un grand-parent juif, dont on soupçonne qu'ils sont juifs. Il va voir comme ça des centaines et des centaines de juifs.
Teint basané, expression générale du faciès plus ou moins judaïque, mimique non judaïque au cours de l'examen. Maintenant, marchez.
Et c'est aussi un point commun qu'il a avec Céline, c'est qu'il y a une forme d'avarice. Et il se fera payer, il sera aussi corrompu. Donc voilà, Montandon, c'est vraiment un nom assez sinistre de l'antisémitisme pendant la guerre, parce qu'il a joué un rôle officiel en tant qu'expert ethno-racial. Il a amené de ce fait des centaines de personnes à la mort.
Habillez-vous.
Donc oui, Céline a été un grand supporter du docteur Montandon.
Je sous-signais, estime que, d'après l'ensemble des données morphologiques et du comportement, le sujet examiné pourrait appartenir à la peuplade de la race sémite. En conséquence, le cas est à considérer provisoirement comme douteux.
Résumons. En février 1941, Louis-Ferdinand Céline publie les Beaudras, son troisième pamphlet antisémite. Ensuite, en mars, le docteur Destouche figure sur les tablettes allemandes pour diriger le commissariat général aux questions juives mise en place par le régime de Vichy. Et enfin, Céline agit en faveur du docteur raciologue Montandon. Le dossier est déjà bien accablant, mais ce n'est pas tout.
Céline manifeste publiquement par d'autres actes que les paroles. Les paroles sont des actes, mais là, par des présences, sa solidarité avec la collaboration. Il est par exemple présent à l'inauguration de l'Institut d'études des questions juives, rue Laboétie, qui est un organisme entièrement financé par les Allemands, qui n'est pas à confondre avec le commissariat de Vichy, hein, aux questions juives. Effectivement, là, on est dans un milieu collaborationniste, pas collaborateur. Mais il est présent. Alors, il est présent physiquement, c'est très intéressant, on est en 41. Il est dans la salle, il est debout, peut-être parce qu'il n'y a plus de place assise pour lui, mais en fait, il est debout au fond. Parce qu'il est présent, il a un pied dedans, un pied dehors. Il sait qu'il va assister, ce qui sera le cas, à quelque chose d'assez pitoyable, c'est-à-dire que ce sont quand même des seconds couteaux, des troisièmes couteaux qui sont chargés de développer cette propagande antisémite qui donnera la fameuse exposition du Palais Berlitz sur le Juif et la France. Donc il est présent dans ces occasions-là. Il peut présider aussi des conférences collaborationnistes.
Actualité française. Septembre 1941.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration.
Dans quel état d'esprit se trouve alors Louis-Ferdinand Céline?
Ce qui est important, c'est de voir le Céline de la fin de l'année. Parce que je pense qu'il y a vraiment un moment Céline, enfin un moment où Céline a vraiment cru que le problème juif pouvait être résolu.
Laurent Joly.
Et là, je crois qu'il faut vraiment relier à ce qui se passe en Allemagne nazie. Enfin, novembre-décembre 1941, c'est le moment où aujourd'hui les historiens considèrent qu'Adolf Hitler a donné l'ordre d'exterminer l'ensemble des Juifs d'Europe. Et je pense que Céline a compris ce moment-là. Parce que Céline, on dit que c'est un génie, sans doute vrai, mais c'est aussi un génie du mal. Et je crois qu'il a eu cette prescience. C'est l'un des rares Français qui a compris ce qui est en train de se passer. Et ça l'a excité. Et quand on relit tous les éléments de preuve, la lettre qu'il écrit, par exemple, à Alain Lobreau, qui était l'un des responsables de Je suis partout, il dit « Soit c'est la mort, soit c'est racisme total, radical. C'est le seul salut pour la France. »
Parmi les éléments à charge qui peuvent confirmer cette radicalisation célinienne, on trouve aussi le journal de guerre de l'écrivain et officier de la Wehrmacht en poste à Paris, Ernst Junger. Nous sommes le 7 décembre 1941.
L'après-midi à l'Institut allemand, rue Saint-Dominique. Là, entre autres personnes, Céline, grand, osseux, robuste, un peu lourdeau, mais alerte dans la discussion, ou plutôt dans le monologue. Il dit combien il est surpris, stupéfait que nous, soldats, nous ne fusillions pas, nous ne pendions pas, n'exterminions pas les Juifs. Il est stupéfait que quelqu'un disposant d'une baïonnette n'en fasse pas un usage illimité.
On est, je crois, le 7 décembre 1941. Et c'est à ce moment précis qu'Hitler donne l'ordre et que Céline, pour la première fois de sa vie, se mue en une sorte de muse politique, de cerveau politique, et imagine que les antisémites devraient s'unir. Et alors il va s'unir avec un homme qui s'appelle Deloncle, Eugène Deloncle, qui est un peu comme Céline, c'est un intellectuel du fascisme français, et ils vont imaginer une sorte de plateforme politique. Céline qui imagine une plateforme politique pour que les antisémites soient unis, pour que l'Église catholique se convertisse au racisme, c'est-à-dire que, parce que l'Église catholique c'est quand même un pan important, un vecteur d'opinion considérable. Donc on voit quelqu'un qui imagine vraiment qu'on va vraiment pouvoir maintenant faire quelque chose et qu'on va résoudre vraiment le problème juif. Je crois qu'il a compris ce moment. Décembre 41, Hitler qui annonce que la guerre maintenant mondiale, les Juifs seront exterminés, la conférence de Wannsee qui a lieu en janvier 1942, je suis assez convaincu que Céline a compris qu'il se passait quelque chose. Il l'a compris, il y a d'ailleurs des allusions dans sa correspondance personnelle et ça l'a rendu un peu euphorique. Et d'ailleurs, quand on regarde la liste des lettres qu'il a envoyées à la presse collaborationniste, on voit que sur la trentaine de lettres qui ont été identifiées essentiellement par Annick Durafour, on a maintenant la totalité de ce qu'il a envoyé à la presse collaborationniste, on voit qu'il y en a 20 autour de ce moment-là, 41-42. Voilà. Et comme Céline voit les choses que les autres ne voient pas, il a vu ça. Et il a vu aussi, assez vite, que les carottes étaient cuites pour les nazis. Et ça l'a rendu amer et retournant sa veste plutôt que les autres. Donc on voit que Céline a vu des choses, et il a vu, et ça j'en suis intimement convaincu, il a vu, il a compris, et il a milité en faveur de la solution finale de la question juive, c'est-à-dire l'extermination radicale des Juifs d'Europe et de France.
La volonté du Führer est de débarrasser l'Europe des Juifs.
Der Führer will Europa judenfrei machen.
Il convient donc de préparer le regroupement de tous les Juifs de France en prévision de leur émigration future.
En juin 1942, sur Radio Paris, la radio des collaborationnistes, on cherche à faire de la pédagogie.
Eh bien, chers auditeurs, vous savez que depuis quelques jours, la question juive, tout en conservant son caractère de brûlante actualité, a pris une ampleur plus considérable encore que dans les mois écoulés.
Une ampleur plus considérable. Pour quelle raison ?
L'obligation faite aux Juifs de porter l'étoile jaune n'a pas manqué de susciter des commentaires et de soulever partout la curiosité. C'est pourquoi Radio Paris, dans son souci d'objectivité, a demandé à l'un des plus qualifiés spécialistes de la question juive, M. André Chaumet, vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs, de bien vouloir exposer son point de vue. Et tout d'abord, pour bien situer la question juive dans toute son ampleur, je vais demander à M. André Chaumet de nous citer quelques chiffres sur l'envahissement de la France par les fils d'Israël.
Eh bien, cher monsieur, cet envahissement de la France tient tout entier dans une phrase de Ferdinand Céline, « Un termite, toute la termitière, une punaise, tout le bois de lit. » En 1320, les Juifs étaient 120 à Paris. En 1789, ils étaient 45 000. En 1808, la France comptait 46 660 Juifs sur 28 millions d'habitants. Et en 1942, 1 200 000 Juifs pour 42 millions de Français.
Vous imaginez bien qu'en 1320, on avait des chiffres très précis sur le nombre de Juifs en France. 120, donc. Si ce n'était pas aussi tragique, on en rirait. C'est toujours la même rengaine, la crainte de l'invasion. Vous avez entendu André Chaumet citer Céline à l'antenne. L'écrivain est devenu le prophète des antisémites. Mais se pose maintenant une question essentielle. Durant ces années noires, Céline, le propagandiste, a-t-il été rémunéré par les Allemands ?
Céline n'a jamais été payé par les Allemands sous l'occupation, ou en tout cas, il n'a jamais été payé directement.
Anne Simonin.
Et c'est toujours ce qui est compliqué avec Céline. Donc, si on pense qu'on va trouver un chèque signé par Karl Epting dans les archives, on ne le trouvera pas.
Karl Epting, diplomate nazi, était le directeur de l'Institut culturel allemand à Paris.
Mais en revanche, Céline a pu rééditer, notamment Bagatelle pour un massacre, grâce aux tonnes de papiers qui lui ont été attribuées par les Allemands, qui contrôlaient très étroitement les attributions de papiers à partir d'avril 42, dans le cadre d'une commission de contrôle des attributions de papiers, qui est la vraie date de censure dans l'édition française occupée.
Me voici donc au rez-de-chaussée, au siège de la librairie. J'entre, c'est une pièce très clair, où les livres sont nombreux et fort bien exposés.
Reportage de Radio Paris, 1942.
Je vois devant moi un petit buste d'Édouard Drumont qui a sa place ici, et au mur un portrait du maréchal Pétain. Alors ce qui se vend le mieux, c'est du Céline, si
le
je puis
Céline,
dire.
Le Céline, c'est ça, oui, le Céline. J'ai le Bagatelle pour un massacre.
J'ai le buste,
là. Les beaux draps. Les beaux draps. Des cadavres. Et toute ma collection de l'Institut.
Alors, Louis-Ferdinand Céline a-t-il gagné beaucoup d'argent avec ses succès en librairie sous l'occupation ?
Ah bah bien entendu, parce que Céline, c'est un auteur qui se vend très très bien, et notamment les pamphlets, puisqu'on considère qu'il y a 170 000 exemplaires des pamphlets qui se sont vendus entre 1940 et 1944. 37 000, par exemple, pour Les seuls beaux draps, qui est le pamphlet antisémite de 1941. Et puis surtout, Céline, c'est quand même l'un des auteurs les mieux payés de la place de Paris, parce qu'il a des taux de rémunération absolument léonins, qu'il a imposés à De Noël, donc il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, oui.
Cependant, Céline doit affronter des crispations du côté du régime de Vichy. Et il s'en offusque dans sa correspondance.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Lucien Combel, le 21 août 1942. Mon cher Combel, ne te gratte pas, c'est fait. Je suis déconseillé en zone libre. Jamais une ligne ne paraît sur aucun de mes livres. Au-delà de Tours, je n'existe plus. Mais Aragon, Bernanos, Mauroy, Mauriac, Duhamel, etc. maintiennent le bon esprit. Révolution pas faite du tout. Rigolade de juifs et consolidation des positions acquises.
Céline interdit par Vichy. C'est contre-intuitif. Mais en effet, les beaux draps sont retirés de la vente en zone sud. Qu'est-ce que l'entourage de Philippe Pétain reproche au texte de Céline ?
Il y a deux choses que heurtent les beaux draps. La première, c'est le moralisme vichysois, que Céline considère comme une tartufferie. Et la seconde, c'est probablement l'atteinte au moral de l'armée, parce que Céline a des pages très très dures sur la défaite dans le cadre des beaux draps, ce qui explique probablement la saisie qui va mettre Céline absolument en fureur. Ça c'est très clair, parce que il y reviendra plusieurs fois dans sa correspondance en disant « c'est inouï que j'ai pu être saisi ». Voilà. Enfin, saisie des exemplaires. On sait qu'il y a 17 exemplaires qui ont été saisis à Marseille et à Toulon. Donc c'est plutôt une mesure symbolique, mais ça prouve que Céline est considérée par les vichistes comme faisant partie de ce groupe qu'ils ne contrôlent pas, qu'on appelle les collaborationnistes parisiens. Et effectivement, qui ne sont pas alignés sur les positions défendues par le maréchal Pétain, beaucoup plus conservateur dans son rapport à l'économie, par exemple, que ne l'est quelqu'un comme Céline. Et quand Céline parle du communisme labiche dans les Beaux-Draps, il défend des positions qui sont plutôt socialistes, en réalité, d'un point de vue politique.
Qu'est-ce que ça veut dire, communisme labiche, Anne Simonin ?
Ça veut dire que c'est un communisme d'opérette. Tout ça, c'est du fantasme pur et simple, parce que ce qui lui importe, c'est effectivement de montrer que on ne pourra modifier les structures de la société française, les rendre plus justes et plus équitables, qu'à partir du moment où on se sera débarrassé des Juifs. Il faut jamais... Enfin, l'antisémitisme, chez Céline, c'est un socle de pensée. Et donc, on ne peut pas, d'une certaine façon, autonomiser les réformes qu'il propose de cette idée force qui est, évidemment, pourquoi on ne peut pas avoir une société plus juste, parce qu'il y a des Juifs qui ont trop d'importance dans la structure sociale de la France.
Durant ce printemps 1942, Céline veut encore aller plus loin dans son projet de sauver la France. Et pour ça, il compte s'appuyer sur Jacques Doriot.
Dès maintenant, j'annonce que le Parti populaire français va demander au maréchal la création d'une légion de volontaires français qui ira combattre le bolchevisme aux côtés de la Wehrmacht.
Jacques Doriot, leader fasciste, est à la tête de la Légion des volontaires français. Et Doriot va partir combattre les communistes aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Louis-Ferdinand Céline décide donc de lui écrire avec une idée bien précise derrière la tête.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Jacques Doriot, mars 1942. Mon cher Jacques Doriot, pendant que vous êtes aux armées, il se passe de bien vilaines choses. Nous assistons en ce moment à un bien répugnant travail. Le sabotage systématique du racisme en France par les antisémites eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Spectacle bien français.
Pour simplifier, disons qu'au sein du clan collaborationniste apparaissent des divisions et des haines. Céline s'en désole.
Notre défaite est morale. Elle n'est point d'intelligence. Il n'existe qu'une seule question, la question juive. Sans les Juifs, le rapprochement franco-allemand serait chose faite, entendue, accomplie depuis belle lurette.
On ne s'attend pas à voir Céline se prononcer clairement en faveur d'un leader collaborationniste plutôt que d'un autre.
Pascal Horry.
Parce qu'il y a le choix et ce milieu se déteste gentiment. Il y a en particulier un choix entre un ancien communiste, quand même, Jacques Doriot, et un ancien socialiste, Marcel Déat. Et de manière tout à fait significative, il choisit le plus populiste, dirait-on aujourd'hui. Celui qui manifeste une virilité exceptionnelle et qui en joue.
Grâce à la Légion, la France a la possibilité de reconstituer la seule force militaire qui peut être acceptée en Europe, puisqu'elle concourt à la défense commune.
Jacques Doriot, sur Radio Paris.
Ne sait-elle pas, notre jeunesse, que si elle ne combat pas, la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est n'aura que mépris pour elle. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance!
Le projet d'unification de Céline patauge. La plateforme des antisémites ne se constitue pas vraiment et il commence à sentir le vent tourner. Excédé, Céline se met à sortir du cadre, au point d'inquiéter certains cercles allemands à Paris.
Certains responsables allemands n'ont pas du tout aimé Céline, qui était quand même trop plébéien, trop ordurier, qui compromettait un peu les bons combats. Quelqu'un comme Ernst Jünger, qui est par ailleurs à cette époque non seulement l'écrivain reconnu mondialement que l'on sait, mais qui est officier de la Wehrmacht, en poste à Paris, eh ben on sait par certains textes qui ont été publiés assez vite d'ailleurs, qu'il avait un regard très négatif sur Céline, qui était pour lui le nihilisme intégral. Bon. Donc cette position, qui est la version sophistiquée, rejoignait celle de responsable nazi de base, qui considérait que c'était un ordurier incontrôlable. Bon, je ne sais pas s'ils étaient ordurier, il n'était pas contrôlable, ça c'est tout à fait clair.
Après la défaite des Allemands devant Stalingrad, en février 1943,
et la chute de Mussolini 5 mois plus tard en Italie, Céline comprend très vite que tout est perdu. Et il se met alors à jouer une autre partition, celle de la démesure totale, au point de sidérer certains collaborationnistes.
Son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne.
Et puis, il y a aussi ce repas organisé par Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne en France, rue de Lille, où on retrouve, entre autres, Jacques-Benoît Méchain, donc écrivain et surtout ministre collaborationniste, et Céline fiche le bazar. Parce qu'effectivement, il va éructer sur le fait que tout est foutu. Je veux dire qu'on est apparemment en janvier 44. Mais tout est foutu et que Hitler est complètement dépassé par les événements, que Hitler serait peut-être même juif quelque part. C'est là que Céline continue à être intéressant. Parce qu'il ne joue vraiment pas le jeu.
Pour dresser un bilan de cette période de l'occupation, qu'est-ce qu'on peut répondre aux admirateurs de l'écrivain Céline qui n'ont cessé depuis 80 ans de minimiser l'engagement du docteur des touches auprès des nazis entre 1940 et 1944.
On ne peut pas à la fois cultiver le rôle exceptionnel, prophétique, mais aussi lyrique, stylistique, parce que c'est quand même quelqu'un qui figure définitivement dans l'histoire du style. Hein. Ça, c'est évident. On ne peut pas revenir là-dessus. On ne peut pas exalter cette dimension-là, positivement, sans se poser la question de la contrepartie éthique de tout ça. Et je pense que, primo, un grand artiste peut être une infâme crapule, mais en même temps, il doit être responsable devant la justice humaine de ses paroles qui sont des actes. Sans parler de cas où c'est vraiment un acte, comme à Beson. Mais les paroles sont des actes, les écrits sont des actes. La responsabilité, d'une certaine façon, Céline ne l'a pas assumée, contrairement à Brasillach. Brasillach ne fuit pas, c'est pour ça qu'il est fusillé. Céline s'installe au Danemark, et il avait déjà, certains diraient, planqué ses sous au Danemark avant. C'est qu'il a déjà anticipé, conformément d'ailleurs à son discours défaitiste. Tout ça se terminera mal pour Hitler, donc il commence déjà à évacuer une partie de ses deniers au Danemark. Bon, je crois qu'il est tout à fait normal qu'un écrivain soit aussi responsable qu'un garagiste.
En conclusion de ce 7e épisode, retenez que sous l'occupation, Céline n'était pas qu'un écrivain génial, plus ou moins délirant et plus ou moins irresponsable de ses propos. Non, ça, c'est la légende célinienne. Le docteur des touches avait pleinement conscience de la gravité de ses actes, au point qu'il fut l'un des tout premiers à quitter la France le 17 juin 1944, bien avant Pétain et Laval.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Karen Marie Johnson, le 10 juin 1944. Chère Karen, nous partons avec Lucette le 15 juin pour Baden-Baden. Il le faut. La vie devient ici impossible pour moi. Je resterai quelques semaines à Baden-Baden et puis je prendrai un poste médical là-bas en attendant les événements. Sans doute ne reverrons-nous jamais Montmartre. Ainsi va la vie.
12 ans après la libération, en 1957, au micro d'Albert Binden, la lucidité de Céline résonne presque comme un aveu.
À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. Mais c'est tout.
À mort, les collabos !
Comment Louis-Ferdinand Céline a pris ses jambes à son cou pour sauver sa tête, c'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Charles Berling et Bérangère Barluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, L'étrange cavale. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.